Merci, merci les musiciens pour ce vieux pèlerin remis comme à l'origine, comme un vrai blues, je sais pas comment dire, comment on peut appeler ça, un vrai blues. Bien, nous sommes le dimanche 4 octobre et je voudrais vous dire qu'il ne reste plus que 8 jours, ce sera le lundi 12 que Facebook Révélation Bible sera de nouveau débloqué. Alors je vous dis ça pour vous signaler que je vais mettre donc toutes ces prédications le 12, je vais mettre tout sur Facebook afin de rattraper tout ça, mais je trouve que c'est dommage que nous n'ayons pas la liberté de pouvoir dire l'évangile tel qu'il est et que on nous bloque, là j'ai été bloqué 30 jours. Alors, un conseil, à partir de maintenant, vous qui aimez bien venir écouter mes prédications, allez sur révélationbible.fr, c'est notre site, ça Facebook ne peut pas nous le supprimer. Révélationbible, en un mot, sans accent.fr. Vous allez sur la page, la première page à gauche, vous vous inscrivez à la newsletter. Ça veut dire que là, vous allez recevoir des nouvelles de nous chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Et il va y avoir de plus en plus de choses nouvelles sur Révélation Bible. Les frères sont en train de travailler à ça. Alors, qui ne paraîtront pas sur Facebook, parce qu'on va petit à petit se débarrasser de Facebook, puisqu'ils nous font ça fait deux fois cette année qu'ils nous sucrent pendant 30 jours. Alors, on va se rabattre sur le site, vraiment. Alors, révélationbible.fr, vous vous inscrivez sur la newsletter, c'est gratuit, vous recevrez, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, vous recevrez la nouvelle, mais la première chose que vous allez recevoir, après vous être inscrit sur révélationbible.fr, c'est un mail de confirmation, c'est-à-dire que vous allez devoir cliquer pour confirmer que vous êtes bien d'accord de venir sur Révélation Bible et de recevoir les nouvelles. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, on les voit, mais ils n'ont pas confirmé. Donc on ne vous envoie pas la newsletter. On est honnête, on ne veut pas vous embêter, il faut que vous confirmiez. D'accord ? Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, ce matin, je voudrais vous dire quelques paroles que Jésus a dites dans son long discours d'au revoir, juste avant d'être arrêté. Il a dit ça à ses disciples, et je voudrais vous citer non pas son long discours, parce qu'il est vraiment long, mais juste une phrase typique que vous connaissez tous, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité est la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Quand on voit Jésus, on voit le Père. Quand les disciples voyaient Jésus, ils voyaient le Père incarné. Bon, ça, les trinitaires ne sont pas d'accord, mais moi je suis d'accord avec ce que la Bible dit. Alors, c'est beaucoup plus simple d'être d'accord avec ce que la Bible dit plutôt que d'être d'accord avec des gens qui ont des doctrines qui sont évaporées. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu veut-il que son Église soit rétablie? On a trouvé ça dans Actes chapitre 3, que juste avant son retour, eh bien, il va commencer à rétablir toute chose, donc son Église aussi, parce qu'elle est bien malade. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour que ce message soit clair et qu'il ait une influence sur le cœur, sur la vie, sur l'existence de chaque personne qui l'écoute. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Jésus veut que son Église soit comme elle était au commencement. L'Église a passé chez les Grecs, vous savez que d'abord c'était les Juifs à Jérusalem, ensuite ça a été chez les Grecs, les non-Juifs, et puis là il y a eu des choses, des mélanges qui se sont faits, et ensuite c'est devenu ce que c'est devenu jusqu'au jour où il y a eu un réformateur, Martin Luther, dans les années 1500, qui a tapé sur la table et qui a dit non, c'est pas juste, c'est faux. On est sauvé par la grâce et non pas par les œuvres qu'on peut faire. On ne peut pas mériter notre salut. C'est simplement parce qu'on croit que Jésus-Christ est mort à notre place, parce qu'on le croit, alors Dieu nous sauve. Et puis alors, on fait les œuvres qui vont avec notre repentance, c'est certain. Mais on ne fait pas ses bonnes œuvres pour être sauvé, mais on fait ses bonnes œuvres pour être sauvé. Voilà, ça c'était le message principal de Luther. Il n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup de choses. Mais ça, c'est le principal. Ensuite, il y a eu les baptistes qui sont arrivés et qui ont dit « Non, le baptême des enfants, c'est pas juste. » Et ils ont commencé à baptiser comme il fallait le faire, c'est-à-dire comme la Bible le dit, par immersion, et des adultes, pas des bébés. Tout ça, c'est parce que dans la Bible, c'est bien écrit. Mais quand on veut transformer, quand on veut changer les choses, voilà, l'homme ne se gêne pas. Hein. Ensuite, il y a eu un autre, Dieu a restauré d'autres choses. Il a restauré les dons surnaturels, les dons spirituels, comme le parler en langue, le don de guérison, le discernement des esprits. Enfin, il y a 9 dons surnaturels qui ont été donnés à l'Église. Et maintenant, il est en train de restaurer d'autres choses. Il est en train de restaurer la gestion de son Église. Il la veut comme elle était au départ. Au départ, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Ils vendaient ce qu'ils possédaient, ils mettaient au pied des apôtres, qui distribuaient à chacun selon ses besoins, et il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce qu'il y avait une grande grâce reposée sur eux, parce qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que justement ils mettaient tout en commun. Ils n'étaient pas pauvres parce qu'ils avaient tout vendu, ils étaient certainement beaucoup plus riches en ayant tout vendu parce qu'ils mettaient en commun avec d'autres. C'est ce que nous vivons, nous. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on vit en communauté, point de vue de la vie normale, la vie courante, parce qu'on a mis en commun avec les autres. Hein, on pourrait pas vivre dans un cadre comme le nôtre, là, ici, si on se contentait de notre petite retraite. Hein, chérie ? N'est-ce pas les vrais ? Voilà. Et ça, c'est juste un exemple. Alors, je ne veux pas vous prêcher le pourquoi Jésus veut que son Église devienne comme elle était au départ par doctrine, parce qu'on peut prêcher par doctrine, mais je ne veux pas prêcher par doctrine aujourd'hui, je l'ai assez fait, ça suffit. Je veux m'adresser à votre intelligence. Je ne veux pas dire que la doctrine, c'est pas intelligent, mais on peut toujours se chipoter avec les doctrines. Mais l'intelligence, bon, il n'y a que les idiots qui ne vont pas comprendre. Excusez-moi, mais... Donc on va y aller. Il a voulu, Jésus veut, rétablir son Église comme elle était au départ. Pourquoi ? Pour donner à ses disciples du repos. Dans son histoire, l'Église a accepté des fausses idées qui ont commencé à naître dans l'Église grecque. Et ses membres... pensaient que pour être serein, il suffisait de se détacher des choses. Voilà. C'était du stoïcisme. J'ai déjà parlé un peu de ça dans une de mes dernières prédications. Eh bien, le stoïcisme, c'est contre nature. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Épictète, je crois. Hein? Quelqu'un connaît Épictète? Alors lui, un jour il y a quelqu'un qui est venu puis qui lui a tordu la jambe, mais fort, et alors Épictète a dit avec un grand sourire, « Si tu continues, elle va se casser. » Et l'autre a continué et la jambe s'est cassée. Et il a dit, « Tu vois, je t'avais dit qu'elle se casserait. » « Eh ben non, ce n'est pas du christianisme, c'est pas du christianisme. » Dans la vraie vie, pour être serein, nous avons besoin de rêver, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir des projets, de nous engager dans ces projets, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de méditer, nous avons besoin d'autre chose que de la routine, nous avons besoin d'insolites, nous avons besoin d'opposition, nous avons besoin des autres, nous avons besoin des amis, nous avons besoin des alliés, nous avons besoin même des idiots et des méchants, on a besoin, n'est-ce pas, dans la vraie vie. On en a besoin, on nous dira, bon, on a besoin des méchants, mais oui, parce que ça nous booste. Nous avons besoin de faire des rencontres qui vont nous mettre devant des nouveaux possibles. Pour être serein, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être respecté, c'est certain. Et si quelqu'un, si je vois que quelqu'un ne respecte qu'un tout petit bout de ma personne, eh bien, je ne peux rien construire dans la paix avec cette personne, donc, next. C'est pas un manque d'amour, c'est simplement que j'ai pas à traîner un poids, j'ai pas à souffrir, j'ai pas à avoir mal, tout le temps, d'une façon répétée. Non, mais pas besoin. Pourquoi ? Dans l'Église primitive, ils étaient un seul cœur, une seule âme, un seul être, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils avaient tout en commun, pas seulement les biens, mais aussi la vision. Ils avaient une vision, ils savaient ce que Dieu leur avait confié. Nous, dans la communauté, on sait ce que Dieu nous a confié. Et on travaille pour ça. Maintenant, ça ne signifie pas que dans l'Église primitive, comme chez nous, on est tous pareils. Mais non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous parfaits en tout. Il y en a qui sont plus parfaits dans certaines choses que dans d'autres. Mais c'est le fait d'être ensemble. Tous s'aimaient et tous s'aiment dans la communauté et respectent les frères et sœurs tels qu'ils sont. La sérénité, les frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec ce qui est humain. Le mot sérénité, c'est un terme, vous allez être étonné, grec, qui est adapté uniquement à la météorologie. À la météorologie. Pas à nous. On dit un ciel serein. Ça veut dire calme, sec. Voilà ce que c'est, serein. C'est adapté à la météo. Là, aujourd'hui, il pleut. C'est rare chez nous. Donc, ce mot désigne un ciel dégagé, ce mot désigne un ciel limpide, pur. Bon, c'est bien. Alors, on peut dire, faire une métaphore, puis dire, voilà, je suis serein comme un ciel dégagé, pur. Ça, c'est gentil, mais c'est pas. On n'a pas à être comme ça tout le temps. D'abord, le temps n'est pas comme ça tout le temps non plus. Mais qui peut, dans ce monde, honnêtement, de fous, de loups, de tricheurs, de voleurs, de profiteurs, être flap, 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 serein, tout le temps. C'est donc normal qu'on ait des souffrances, des peines, des chagrins, et on n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte d'avoir des moments où on est peiné, où on est dans le chagrin, où on est tenté de douter de quelque chose, parce que ça paraît trop. Le mot sérénité a donné un autre mot, il en a donné beaucoup, mais il en a donné surtout un qui me fait rigoler, c'est sérénade. Vous savez, la 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 la, les sérénades, les petites musiques qu'on chante légères, comme en Italie surtout, hein, quand il fait beau. On est allé avec mon épouse en Italie, chez Charef, et on a vu les gens chantent dans la rue, spontanément. Bon, c'est vraiment magnifique, des sérénades, hein, la mélodie du bonheur. Do, le do, il a bon do, ré, rayon de soleil brille, la, la, ni, bah, vous connaissez, non hein? La mélodie du bonheur, bon. C'est pas du christianisme. Bien que la femme, la vraie femme, qui a vraiment vécu l'histoire, qui a été tournée par Julie Andrews, et dont le film s'appelle La mélodie du bonheur, cette vraie femme, elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne, elle est décédée, elle est morte dans le Seigneur. Bon. Êtes-vous serein ? Personne n'est serein de nature. La sérénité, ça se cultive au milieu des embûches, au milieu des problèmes, au milieu des chagrins, au milieu des peines, au milieu des maladies. Voilà où ça se développe, la sérénité. La sérénité, c'est un chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Alors arrêtons de parler comme les stoïciens, parlons comme Jésus. « Je suis le chemin ». On est en chemin, voilà, on est sur un chemin. Il n'a pas dit « Je suis figé ». C'est pas parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est figé dans une espèce de béat, de sourire béat et de... Non. La première vision que j'ai eue, c'était en fin 68. C'était ça. Je voyais une montagne, c'était vraiment comme un cône, une montagne. Et tout autour de cette montagne, il y avait un chemin qui montait comme ça. Et je voyais un chrétien qui montait sur ce chemin et qui était tout content. Il montait le chemin, c'était super. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'à un moment donné, vous savez, comme le chemin tournait autour de la montagne qui était un cône, il n'a pas vu qu'il y avait un monstre, un démon, un loup, un machin grave qui était caché au bord du chemin. C'était terrible, hein. Et le Seigneur voulait me montrer, calme-toi un petit peu, c'est vrai, tu es dans le bonheur, tu es dans la joie, c'est bien, tu es nouveau converti, c'est super, mais il y a des dangers. Le Seigneur m'a averti comme ça. Il y a des loups sur le chemin, puis il n'y a pas que des loups, il y a un lion rugissant. Alors oui, Jésus est le chemin, et on monte, et on progresse en lui, sur ce chemin. On progresse si on monte, on progresse si on marche, on progresse si on veut atteindre le but. Et pour atteindre un but, il faut savoir qu'il va y avoir des failles à franchir, il va y avoir des embûches à enjamber, des épreuves, des ponts branlants, il va y avoir toutes sortes de choses qui font que la vie n'est pas facile. Hein? La vie n'est pas facile. Hein, la sœur Marilyn, avec ton Zona, c'est pas facile en ce moment, mais ça va finir un jour, ça. Hein? Ça va finir un jour. Des loups, il y a des loups déguisés en brebis aussi, il y a tout ce que vous voulez. Oh, sur le chemin, il y en a des trucs. Hein? Alors, c'est normal qu'on éprouve de temps en temps de la tristesse, du chagrin. Et vous allez vous tordre la cheville de temps en temps sur ce chemin. Et c'est voulu, c'est normal. Si vous êtes normal, quand vous allez vous tordre une cheville, vous n'allez pas dire « Oh, alléluia, je me suis tordu la cheville. » Ben non, vous allez gueuler. Ça fait boubou. En tout cas, moi, quand je me tords une cheville, je gueule. La dernière fois que je me suis tordu une cheville, je me rappelle, c'était au château. On avait fait le long d'un chemin des trous pour pouvoir fixer des lampadaires. Et puis je devais aller chercher quelque chose dans ma chambre. J'ai couru, j'ai oublié qu'il y avait un trou. J'ai fichu mon pied dans le trou et je me suis tordu la cheville. Vous croyez que j'ai dit « Oh, c'est super, j'ai tordu la cheville !» Non, j'ai gueulé comme un malade. Ben, c'est normal. J'ai mal. Et si on me tord une cheville, je gueule aussi. Je suis chrétien, je ne suis pas stoïcien. Jésus ne veut pas que je sois épictète, je ne sais plus comment on dit. Mais même avec une cheville tordue, même avec ma cheville foulée, je vois encore l'horizon, je vois encore le chemin. Et ce chemin, il mène quelque part. Et c'est cela le plus important. Alors, je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas en train de dire « Ah non, je... » Alors, il y a une secte comme ça qui... Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui nie le mal. Non, je ne souffre pas, j'ai pas mal. C'est un peu la méthode Coué. Il y a une dénomination comme ça qui... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne suis pas dans le déni. Mais je ne suis pas non plus désespéré. « Oh, je me suis foulé une cheville !» J'ai 33 ans, je me suis foulé une cheville, je vais boiter jusqu'à la mort. Mais non, je ne suis pas désespéré, ça va se réparer. La sérénité, c'est une vision qui se développe. C'est la visibilité qui donne de continuer. Parce qu'on a un but, ils avaient un seul cœur, une seule âme, un seul but, ils avaient un but. Et nous avons un but. Quel but ils ont, les chrétiens, quand ils vont s'asseoir dans une église? Alléluia, alléluia. Oh, non, ça fait une heure qu'on chante. Alors, on va bientôt entendre le message, et puis j'espère que le rôti que j'ai mis au four n'a pas cramé. Il est long, le pasteur, aujourd'hui. Je connais, j'ai vécu ça. Quel but ils ont? Les pasteurs, ils ont là une vie super parce qu'ils ont des buts, mais les chrétiens qui sont là assis sur les bancs, qu'est-ce qu'ils font? À part deux ou trois anciens qui sont un peu actifs. Eh bien, la sérénité, c'est la visibilité du chemin qui nous donne de continuer, même en boitant. Jacob, il boitait. Vous vous rappelez, je vous ai prêché ça, je crois, vendredi. Que Jacob, il boitait. Non, c'était pas vendredi, c'était dimanche passé, je sais plus. Et le corps de Christ boite aussi. Parce que le corps de Christ, il était mordu au talon. Alors il boite. L'Église, elle est boiteuse. Oui, et alors ? L'Église, c'est plein d'hypocrites. Non. Il y en a, bien sûr. Il y a de tout. Elle est boiteuse. Mais si tu fais vraiment partie de l'Église de Jésus-Christ, tu vois le bout, tu vois le chemin, tu vois où ça mène. Et moi, moi aussi, je suis boiteux. J'ai mal. Je ne suis pas stoïque, je ne suis pas épictète. Non, pas du tout. Et j'ai passé des épreuves terribles. J'ai été au fond du trou. Et j'ai eu très mal. C'est sûr. Mais je refuse de rajouter à ma douleur le poids d'une quelconque culpabilité. Ah, s'il m'arrive ça, c'est certainement parce que j'ai du péché. Alors là, non, mes frères et sœurs, parce que quand je pêche, je confesse mon péché à Dieu qui est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Il ne va pas. Les problèmes qu'on rencontre, c'est des impondérables de la vie. Ce n'est pas des punitions de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine négative? Ah oui, si vous exagérez, vous ferez une clame derrière les oreilles. Mais je refuse de rajouter à ma... Parce que chaque jour dans la communauté... on fait ce que la Bible dit, c'est-à-dire on ne laisse jamais le soleil se coucher sur notre colère ou sur quelque chose qui est négatif, qui n'est pas arrangé. On va trouver le frère, on va trouver la sœur, on dit « je vois bien que une petite conversation, puis c'est fini. » Puis on se met à table, puis on prend la Sainte Cène ensemble. Tous les soirs, on prend la Sainte Cène ensemble. Jésus m'a tout pardonné. Je refuse de rajouter à ma souffrance le poids de l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est la vision de ce qui pourrait bien arriver après. Mais qu'est-ce qui pourrait bien avec ça? Moi, j'en connais. Alors, vous savez, quand j'ai dit que j'avais un cancer de l'intestin, il y a des gens qui m'ont écrit « Moi, j'avais un oncle, il a eu ça, il en est mort. » Ah, ça fait plaisir. Intelligent, de dire ça aux gens. Ou la peur. Je refuse. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas tenté d'avoir peur. Mais quand ça vient, je ne reste pas longtemps là-dedans. Et comment je fais? Parce que j'ai les frères et sœurs qui sont autour de moi. On vit, il y a de la vie. Je ne veux pas m'asphyxier avec de l'angoisse, avec de la peur, avec de la culpabilité. Je veux marcher sur le chemin, je veux atteindre le but que Dieu m'a donné, avec mes frères et sœurs, que j'aime et qui m'aiment, je veux. Et ils veulent aussi. Et alors on se serre les coudes, on y va. Il y a des petites voix qui viennent et puis qui nous disent « Oui, mais je fais comme Philippe Catherine et je coupe le son. Je veux pas écouter ce bavardage qui tourne en boucle dans ma tête, qui me donne à ruminer les choses incessantes, qui me paralyse. Je coupe le son. » Vous ne connaissez pas la chanson? C'est une vieille chanson, elle a au moins 10-15 ans maintenant. Et puis les frères m'aident aussi à couper le son. Parce qu'ils font d'autres sons. Je veux être en rapport direct avec ce qui se passe vraiment. Je ne veux pas esquiver les trucs. Je refuse d'être impuissant devant cette montagne de souffrances et de difficultés. Je veux l'affronter. Avec foi. Je refuse de m'asseoir au bord du chemin et regarder les autres qui passent. Ah tiens, il y a un loup qui passe. « Ah tiens, il y a une brebis qui passe, tiens. » Non, je refuse, je ne veux pas. Ça m'est arrivé de temps en temps d'être tellement claqué, tellement fatigué, que je me suis assis à un moment, mais ça n'a pas duré longtemps, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un frère, une sœur, une sœur. Ça va pas Michel, t'as pas l'air bien aujourd'hui. Mais voilà. Oui, je ne vous prêche pas par doctrine, je m'adresse à votre intelligence. Quand on est tout seul chez soi, on peut être dans un état épouvantable, puis le dimanche on va à l'église, puis on met un masque, un sourire. Bonjour frère, ça va? Oui, alléluia. Parce que si vous dites ça va pas, oulala, ça va commencer à faire des problèmes, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a celui-là? Une drôle de voix, c'est jamais. Les gens qui vivent sa bagnole, ou les gars, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là. Pourquoi il dit que ça va pas, c'est négatif, faut pas être négatif, faut être positif, faut avoir la foi. Ben oui, mais j'ai la foi, mais j'ai des problèmes. Mais ça va passer, t'inquiète pas. Il faut pas être comme ça. Et puis c'est on pense à la légère, la blessure, n'est-ce pas? Non, je veux pas de ça. Je ne veux pas démissionner. Je ne me détache pas de la souffrance. Je ne renonce pas à agir. Alors, je me relie à la situation. J'examine ce rocher qui me bloque le chemin. Je regarde ce loup qui me montre ses dents. Je suis là. Je suis dans l'ouverture à la vie. Grâce à la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas un truc embêtant. C'est pas un truc qui nous met dans des contraintes. Ça nous libère, la communion fraternelle. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule, n'est-ce pas? Je suis dans le chemin, j'ai pas la moindre envie d'en sortir, et même si j'ai mal, ben, de toute façon, ce mal, il était prévu, Dieu sait tout. Voilà. Je suis présent dans le monde. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde, je ne réagis pas comme le monde. Et surtout pas comme les stoïciens. Vas-y, tord encore, ça va casser. Je franchis le seuil de ma douleur en boitant, en gueulant. Mais je le fais, je franchis ma douleur, je passe par-dessus le seuil. Vous voyez mes frères et sœurs? Pourquoi? Parce que je m'ouvre à ce qui m'entoure. Je reste pas fixé sur ma douleur. Quand j'étais petit, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ou je ne sais plus à qui j'en ai parlé, c'est à mon petit-fils, à Lucas, que j'en ai parlé. Mon père, il nous ramenait toujours de ces vieux trucs, des vieux gramophones, des vieux vélos, des vieux machins. Et un jour, il nous a ramené des vieux vélos, vous savez, avec les freins qui étaient... c'est difficile à dire, avec la vidéo ça va, mais l'expliquer, c'était des freins qui étaient un peu en cerceau, en arc de, je sais plus comment, enfin, peu importe, mais alors à mon âge, j'étais donc en culotte courte, et puis je pédalais avec ça, et puis tout à coup, le frein m'est rentré derrière, le frein, c'est la poignée du frein m'est rentré derrière la rotule. Alors, je suis tombé, et j'avais pas mal, mais quand j'ai regardé la plaie, puis que j'ai vu qu'il y avait du rouge, c'était le sang, puis qu'il y avait des bouts de blanc qui sortaient, c'était je sais pas quoi, c'était pas mes boyaux, mais je sais pas ce que c'était, il y avait des bouts de blanc, c'était des boutons. Tout de suite la douleur est venue. Si vous regardez votre douleur tout le temps, si vous êtes omnibulé ou omnubilé, je sais jamais comment on le dit, par votre souffrance, par vos problèmes, si vous regardez que ça, non, vous allez avoir mal tout le temps. La vie communautaire nous permet justement d'être occupés, de s'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas forcément, mais qui intéressent un frère, qui intéressent une sœur, qui a un besoin, et alors on va le faire, et puis on en discute, on en parle, et puis on le fait, puis on bouge, et puis voilà, puis les choses... Est-ce que vous me suivez? Je m'ouvre à ce qui m'entoure. Ma souffrance, elle est là, ouais. Mais elle finira par disparaître. Elle est juste un élément du paysage parmi d'autres. Je ne cherche pas à trouver la solution à mon problème. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des fois, oui, il y a des fois on peut chercher une solution à un problème. Mais il y a des fois on peut pas. Et puis il y a des fois ça nous dépasse. Hein, on a besoin d'avoir un oncologue, on a besoin d'avoir quelqu'un qui sait, et puis qui... On a toujours besoin des autres. Et c'est pourquoi Jésus veut qu'on soit ensemble. Je ne cherche pas forcément toujours la solution à mes problèmes, mais je vis dans un espace que j'ai créé avec l'ami Chou, avec l'aide de Dieu, la communauté, selon Luc 14, 33, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, et je suis conscient de la présence de mon épouse, et je suis conscient de la présence de ma fille Mélodie, de mes petits-enfants, de mes frères et sœurs, je suis conscient de la présence de mon chien, je suis conscient de la présence des petits oiseaux qui chantent, des cigales qui gueulent pendant l'été. Elles sont-tu là, vous avez vu? Et tout à coup, alors que je suis dans cet espace où ça bouge, où ça vit, où il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a toutes sortes de choses, et il y a ma souffrance qui est là, mais il y a toutes sortes de choses qui se produisent, tout à coup, dans cet espace, je trouve la solution en arrêtant simplement de penser à mon problème. Vous avez déjà remarqué que vous avez quelque chose à dire, vous voulez le dire, puis ça vous sort de la tête. Oh, ma belle-mère, Rachel, elle disait, oh, j'ai mangé. Je vais dire quelque chose, mais j'ai mangé. C'est-à-dire, j'oublie ce que c'est. Le meilleur moyen pour se rappeler ce qu'on a oublié, c'est de penser à autre chose. Vous avez déjà fait cette expérience? Vous pensez à autre chose et puis tout d'un coup, boum, la chose que vous avez oubliée, ça vous revient. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que vous cessez de vous occuper et de regarder votre genou, il y a une cicatrice qui saigne, puis il y a des boublons qui sortent, puis vous avez mal. À la place d'être hypnotisé par votre problème, par vos douleurs, vous vous occupez d'autre chose et vous oubliez. On est fait comme ça, mes frères et sœurs. On n'oublie pas complètement, mais disons que ça amoindrit le truc. Et ça donne des solutions. Tout d'un coup, les solutions surgissent. Je trouve la solution en cessant de tourner en rond. J'ai des petits-enfants. J'en ai un, Titi, qui est à l'école. Il est en combien ?
Sixième.
C'est le meilleur de sa classe. C'est le meilleur. Il a eu 16 sur 20 en chimie, là, dernièrement, waouh, c'est très bien, bravo. Et puis, il y a eu quoi encore? Je ne sais plus.
4 sur 5 en chimie aussi.
Voilà, c'est... Il est intelligent. J'ai un petit-fils qui est à l'université, qui fait des études dans le cinéma. J'ai une petite fille, Élise, qui est aussi à l'université, qui fait ses études de médecine. Et tous, ils savent que quand viennent les examens, quelques temps avant, on révise, et il y a un moment où il faut arrêter de réviser. Il y a un moment où il faut fermer les bouquins, regarder un bon film, sortir avec des copains, s'amuser, laisser tomber tout ça, penser à autre chose. Et l'Église, c'est cet espace-temps. C'est pourquoi je vous disais, Jésus veut que vous viviez en communauté, parce que il veut vous donner du repos. Cet espace-temps. Pas l'église, salle de réunion, ça c'est une synagogue, c'est une assemblée. Le mot synagogue signifie assemblée. On n'est pas une, l'église, c'est pas une synagogue, c'est pas simplement des gens qui se rassemblent le dimanche. C'est l'église communautaire que Jésus a créée à Jérusalem. C'est de ça dont je vous parle. Et que nous vivons depuis 1977, parce que Dieu a rétabli cela. C'est selon ce qu'il avait dit au travers des apôtres, Actes chapitre 3, verset 21, il l'a rétabli. Maintenant, ça existe. Il y a un modèle. Il y a d'autres personnes qui regardent notre modèle et qui font à peu près comme nous on fait. Très peu, mais il y en a. Ils ne font pas tout à fait comme on est, ils ne font pas tout à fait comme on fait, mais ça bouge. Dans la communauté, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et les frères et sœurs qui nous entourent, eh bien, ils nous permettent d'avoir un lendemain. Parce qu'on a des projets, parce qu'on parle, parce qu'on se bouge pour ça. Ils sont toujours là. Dans cette vie communautaire, nous avons plus de place, plus de grande capacité à répondre aux situations. Hier, il a plu. Et voilà que Stéphane arrive, il dit « Oh, dans la chambre de mon papa, il y a une fuite. » Je dis « Mais c'est pas possible. Pour qu'il y ait une fuite dans la chambre de ton papa, il faut que ça fuit d'abord chez moi, puisque je suis juste en dessus. » On regarde, il n'y a rien. « Ah, tout d'un coup, on s'est souvenu. Mais il y a le petit truc là. » C'est une plaque qui a été mise pour cacher les tuyaux. On a ouvert, on a vu que c'était là, ça goûtait. Bon, ben voilà. Mais bon, et puis, mais moi je peux pas aller à mon âge ramper dans ce trou à plein de câbles, plein de tuyaux. Mais Stéphane, lui, il est balèze, mais il est quand même souple et mince. Il a pu, ce qu'il faut, il a fait ce qu'il fallait. On est tous là pour s'entraider et tout. C'est juste un exemple, hein. C'est juste un tout petit exemple de hier, d'un petit truc qui s'est passé hier. Si j'avais vécu dans un pavillon, j'aurais dû appeler un plombier, j'aurais dû le payer. Hein? Ça aurait été ballot. Plutôt que de donner à l'église. Alors bon, la sérénité, terme météorologique, c'est sortir de l'obsession du problème pour être pleinement présent dans ce qui est. La souffrance, les solutions données par les uns et les autres, la vie, l'existence, les projets, toutes ces choses-là. Je suis en accord parfait avec ce qui est à l'unisson de la vie. Jésus a dit « je suis le chemin », mais il a dit aussi « je suis la vie ». Il faut vivre, avoir du vécu, pas seulement des réunions où on dit rien, ou juste « Alléluia ». C'est déjà pas mal, mais bon. Alors mon frère, ma sœur, tu as un côté négatif, moi aussi j'ai un côté négatif, on a tous un côté négatif. Une pièce, elle a deux côtés, nous avons tous un côté négatif. Mais il ne faut pas que tu regardes que le côté négatif. Ton côté positif est aussi important que ton côté négatif. Mais qu'est-ce que tu préfères regarder? Qu'est-ce que tu préfères vivre? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien vivre dans le négatif pour pouvoir se plaindre tout le temps, pour qu'on les plaigne, puis qu'on dise « Oh mon pauvre, je priais pour toi. Oh oui, c'est grave. Mais je priais pour toi. » Puis ils aiment bien qu'on les plaigne. Non. Il faut regarder le côté positif. Le côté positif existe et le côté négatif aussi. Mais Félicie aussi. Mais le côté négatif, ce n'est pas une porte fermée. C'est une porte que tu dois ouvrir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est qui dit ça ? Johnny Hallyday ? C'est qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe » ? C'est qui dit ça ? C'est Jésus. Si tu entends sa voix au travers de ce message, au travers de cette porte, alors que tu es derrière ta porte avec tes souffrances, avec tes problèmes et avec ta solitude, si tu entends sa voix, ouvre la porte et sors. Sors. Va avec Jésus. Vis avec tes frères et sœurs, fais ce qu'il veut, tiens, mais il veut quoi? Commence déjà par sortir. Commence déjà par sortir de ton négativisme et de ta solitude. Sors. Et tu vas vite comprendre ce que Jésus veut que tu fasses. Il va te le dire, tu vas vite comprendre. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message et de leur faire voir que il n'y a rien sans la foi. Et que c'est bien beau de dire « Jésus, le chemin, la vérité, la vie », mais il faut marcher sur ce chemin. On peut trébucher sur ce chemin, il y a des dangers sur ce chemin. Mais tu es là avec nous, tu es la vie. On n'est pas tout seul, on est avec tous les frères et sœurs. On monte tous ensemble. Et Seigneur Jésus, merci d'éclairer chaque frère, chaque sœur qui écoute ce message pour qu'ils comprennent ce que tu veux pour eux et qu'ils puissent le vivre avant ton glorieux retour. Merci Jésus. Amen. Au revoir.